Cette croyance, elle peut conduire les investisseurs à prendre des risques excessifs, à chercher des stratégies de trading de l'espace pour tenter de réaliser des gains exceptionnels. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le Money Circle Talks, le podcast où nous plongeons au cœur du monde de l'argent, des investissements et de la liberté financière. Je m'appelle Anthony, je suis absolument ravi de vous accueillir pour l'épisode du jour. Peu importe que vous soyez un expert en investissement ou que vous débutiez tout juste dans les finances personnelles et l'investissement, soyez rassurés, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va se plonger sur les mythes de l'investissement et démystifier certaines de ces fausses idées courantes qui peuvent influencer des décisions financières de nos tout jeunes investisseurs. On va également, je vais également vous donner des faits réels pour vous aider à prendre des décisions éclairées et surtout à mieux comprendre les mécanismes de l'investissement. Donc les amis, préparez-vous à remettre en question certaines croyances qui sont très répandues. Et à la fin de cet épisode, vous aurez la vérité, rien que la vérité, je le jure. juste avant de commencer le mythe numéro 1, les amis, quand je vous dis d'avoir un fonds d'urgence, c'est nécessaire. Je dis pas ça parce que ça fait beau et parce que ça a été prouvé, etc. Mais c'est quelque chose de réel. Je vous donne un exemple. Mon Airbnb que j'ai lancé il y a 4 mois. Je vous fais un petit retour vite fait. Il tourne du feu de Dieu. j'aurais lancé cet Airbnb il y a tellement longtemps, parce que c'est indécent les rentabilités qu'il fait, et c'est super cool, je suis déjà super hot, etc., etc. Mais bon, pourquoi le fonds d'urgence? Tout simplement parce que on est en juillet, et en juillet, j'ai eu un dégât sur ma toiture. Eh ouais, parce qu'il a plu énormément, il y a eu des petites grêles qui a fait quelques petits trous sans que je m'en rende compte. Et puis, j'ai la dame de ménage qui m'appelle un jour, qui me dit « Ah, regarde, il y a ça, ça, ça. » Et elle montre des photos et effectivement, l'appartement tout neuf, placo tout neuf, traces d'infiltration et puis voilà, c'est bien connu, dans le Nord, il pleut quand même pas mal. Eh ben, ça s'est aggravé, j'ai fait venir quelqu'un, le temps qu'ils interviennent, etc., etc. Voilà. Et le fonds d'urgence est nécessaire parce que j'aurais pas d'argent de côté, eh ben, j'aurais pas pu payer les repas. Tout simple. Bon, les amis, on passe au mythe numéro 1. Investir, c'est réservé aux riches. celui-là, je l'ai entendu un bon nombre de fois. On va démystifier tout de suite cette idée fausse selon laquelle investir est réservé aux riches. Cette croyance, elle est largement répandue et en fait, elle peut tout simplement décourager de nombreuses personnes de se lancer, tout simplement, de se lancer dans l'investissement. Et pourtant, la réalité, en fait, elle est totalement différente. Parce que ce mythe, il repose en grande partie sur l'image populaire qui est véhiculée par les médias et par la télé et la culture populaire. On nous montre souvent des investisseurs milliardaires, des magnats de Wall Street qui, avec leurs beaux costards, etc., semblent dominer le monde de l'investissement. Et en fait, ça peut te créer une impression que l'investissement, c'est pas pour tout le monde. C'est réservé à une élite fortunée. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'investissement, il est accessible à presque tout le monde, quel que soit le niveau de revenu de la personne. On peut démarrer avec des petits montants. On n'a pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer à investir. De nos jours, il y a tellement de solutions d'investissement, tellement de plateformes différentes qui permettent de démarrer avec des montants qui sont très modestes. Que ce soit en investissant dans des actions, en investissant dans des obligations, dans des fonds communs de placement, vous pouvez commencer simplement avec 50 euros par mois si vous le souhaitez. L'important, c'est la constance. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'investissement, c'est un processus qui est progressif. Et l'une des clés du succès, c'est la constance. En investissant régulièrement, à chaque fois, même des petites sommes, vous pouvez accumuler des richesses au fil du temps grâce à la magie des intérêts composés. Bien sûr, c'est pas en investissant 50 euros que dans 5 ans, tu seras milliardaire ou millionnaire. Non, il faut être somme toute logique. Mais par contre, tu peux, en investissant 50 euros, vraiment faire une différence dans ton futur. Ensuite, la diversification. Je vous le tanne, les amis. C'est la stratégie intelligente d'investissement. Ça va consister à diversifier son portefeuille que, au lieu de d'investir tous tes œufs dans un même panier au même endroit, eh ben ok, on va investir dans différents actifs, dans différents secteurs, dans différentes régions géographiques. Tout ça pour répartir les risques. Et la diversification, il faut voir ça comme une approche prudente. Surtout, surtout pour les investisseurs débutants. Ensuite, si on continue, ça nous permet, on va pouvoir accéder à l'éducation financière. De nos jours, on ne peut plus dire que investir n'est réservé qu'aux riches. Simplement parce que il existe une multitude de ressources en ligne, des vidéos YouTube, d'applications et plein d'autres choses qui offrent une éducation financière qui peut être gratuite, totalement gratuite et accessible à tous. Vous pouvez tous apprendre les bases de l'investissement, comprendre les différents types d'actifs, les différentes stratégies, savoir de quoi, dans quoi investir, comment organiser son portefeuille, etc., etc. Sans besoin de suivre une formation, un cours formel. Donc tout ça, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez tous avoir accès pour la. Si vous ne souhaitez pas payer pour vous former, même gratuitement, vous pouvez trouver. Je vous donne quelques petits conseils pour vous lancer. Commencez petit. Commencez petit. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je le répète, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que l'investissement, vous dire que c'est 100% safe, je ne peux pas le dire. C'est pas possible. Il y a un risque de perte en capital, etc., etc. Ça, faut en être conscient. Faut pas miser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est clair et net. Il faut utiliser de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Il faut utiliser de l'argent dont vous n'avez pas besoin en cas d'urgence. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on peut investir juste des petites sommes sans se mettre en réel danger. Parce que tu vas pas mettre, je sais pas, imaginons, t'as 10 000 balles de côté. D'épargne en cas d'urgence, bah tu vas pas prendre ces 10 000 balles sans le dire à ta femme et puis tout miser sur la crypto hein, en espérant faire un fois 100. Non, ça c'est risqué, ça c'est de l'investissement risqué. Par contre, tu peux investir sur des choses relativement safe avec toujours ce risque de perte en capital mais qui est limité. Tout simplement. Ensuite, soyez patient. Soyez patient. L'investissement, c'est un voyage à long terme. Les fluctuations du marché, c'est quelque chose qui est totalement normal. Et en restant patient, en gardant le cap sur vos objectifs, c'est là que vous allez débloquer la plus grande chance de réussite. Il faut être constant et déterminé. Parce qu'effectivement, si quand tu investis, dès que le marché descend un peu, tu es en panique. Et tu cherches à retirer ton argent, effectivement, c'est là que tu vas merder. C'est là que tu vas perdre réellement de l'argent. Mythe numéro 2, ça nous permet de faire la transition directement. Les actions sont trop risquées. Ce mythe des actions trop risquées pour être un bon investissement, cette croyance, pareil, elle est répandue, elle peut décourager de nombreuses personnes d'investir sur le marché boursier. La vérité, c'est que, comme tout mythe, il faut examiner les faits pour mieux comprendre la réalité de l'investissement dans le marché boursier. En fait, ce mythe, il provient de l'idée que les marchés boursiers sont imprévisibles et volatiles. Quand tu parles de bourse à une majorité des gens, ils ont tous en tête ces images de krach boursier, ces images de forte baisse des prix des actions et de la possibilité de tout perdre. Et donc, c'est à cause de ça que les gens peuvent être incités à croire que bah, les actions, c'est l'investissement en bourse, c'est réservé uniquement aux spéculateurs audacieux. Mais en vrai, Bien que les actions peuvent être sujettes à des fluctuations de prix à court terme, il est essentiel de prendre en compte l'effet réel pour comprendre l'investissement dans les actions. Parce que historiquement, les amis, si on regarde l'historique de rendement, c'est solide. C'est solide. Sur le long terme, le marché boursier a tendance à générer des rendements stables. L'historique de la bourse nous montre que bah, malgré les crises, malgré les corrections, bah, les actions elles ont généralement surpassé beaucoup d'autres classes d'actifs, notamment les obligations et tout ce qui est compte d'épargne. Je vous remets un petit coup sur la diversification. La diversification réduit les risques. La meilleure façon de réduire son risque, diversifier en investissant dans des actions différentes, différents secteurs géographiques, etc., etc. L'investissement à long terme, l'investissement en actions, c'est tout le monde. Personne va vous dire, à part ceux qui font du trading, les amis, qu'on soit bien clair, hein, ici, je ne parle pas de trading. Je ne fais pas de trading, je fais uniquement de l'investissement à long terme, entre guillemets, en bon père de famille. Ok? Moi, je souhaite pas faire du trading à regarder toutes les heures comment ça évolue, etc. J'ai pas le temps pour ça. Moi, au contraire, je cherche. Sur le marché boursier, j'ai une approche qui est majoritairement passive. J'investis tous les mois quasiment la même somme sur les mêmes trucs, etc., etc. Donc, investissement à long terme, les amis, c'est quand vous investissez sur plusieurs années, voire des décennies, c'est là que vous avez des meilleures chances de réussir sur le marché boursier. C'est là que vous avez les meilleures chances de surmonter les fluctuations du marché. Ensuite, il faut faire preuve de prudence. Le risque peut être géré grâce à des stratégies prudentes, telles que l'analyse fondamentale des boîtes. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'investir dans des ETF, etc., parce qu'il y a ces... Il y a les pour et puis il y a les contre. Si tu n'as pas envie d'investir dans des ETF et que tu préfères acheter des actions, des parts de société à l'unité, analyse fondamentale. Tu ne vas pas acheter une boîte que tu ne connais pas. Tu ne vas pas acheter une boîte que tu n'as pas étudiée, etc., etc. L'analyse fondamentale, c'est hyper important quand on souhaite investir sur des actions unitaires. Ensuite, il nous faut élaborer un plan de gestion des risques et de la fixe et fixer nos objectifs d'investissement de manière claire. Ok, quand j'arrive là, ok, je fais ça, tac, tac. Si jamais il se passe ça, si le marché se retourne, si cette boîte se casse la gueule, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais limiter les pertes? Est-ce que je laisse couler et puis ça va remonter? Voilà, on prévoit plusieurs scénarios. Maintenant, si le risque des actions vous inquiète, moi je vous conseille quelque chose de moins risqué, c'est les ETF. Les ETF ou encore les fonds de placement immobilier, ce qu'on appelle les REIT aux États-Unis, c'est en quelque sorte des grosses boîtes avec plein d'immobilier à l'intérieur, etc. En France, en gros, ça serait des SCPI. Mais il y a plus de rentabilité sur les REIT, REIT que sur des SCPI. Certes, elles sont moins risquées, mais elles rapportent moins, normalement, que d'investir sur des actions individuelles. Par exemple, pour les ETF, un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est vous achetez un panier avec... Par exemple, prenons le S&P 500, qui comprend les 500 plus grosses boîtes américaines. Dans ce panier, vous avez les 500, une part de 500 boîtes. Ok? L'ETF, lui, est créé dans le but de suivre cette tendance du S&P 500. Alors, il y a toujours un delta. Il va pas faire à 100% le même résultat que le S&P 500. Il peut faire plus, il peut faire moins. Très souvent, il fait moins que le S&P 500. Mais de manière totalement passif. Moi, c'est pour moi la meilleure stratégie que j'ai mise en place pour investir dans le marché boursier. Maintenant, pour ceux qui veulent réduire les risques, quelques petits conseils pratiques. Je vous l'ai dit, faites vos devoirs. Avant d'investir dans une entreprise, prenez le temps de comprendre son business, analysez ses performances passées, ses perspectives futures. sa santé financière? Est-ce qu'ils investissent dans la recherche et développement pour le futur? Est-ce qu'ils anticipent le futur? Est-ce qu'ils commencent à pivoter? Etc. etc. Diversifiez votre portefeuille. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça va de soi, c'est un adage qui est hyper connu. Diversifiez vos investissements dans plusieurs actions, plusieurs secteurs pour atténuer les risques. Ensuite, on investit sur le long terme, les amis. Ne cédez pas à la panique lorsqu'il y a des fluctuations à court terme. Gardez à l'esprit que l'investissement en action, l'investissement boursier en somme, on est là pour du long terme. 5, 10, 15, 20, 30 ans. Donc on est tranquille, serein. Et au contraire, faut pas faire cette erreur parce que moi, quand j'ai commencé la toute première fois l'investissement immobilier, j'ai fait ça. J'ai investi 2000 ou 3000 balles sur des actions et puis ça s'est cassé la gueule derrière. Enfin, casser la gueule, c'était relatif. Déjà, de base, quand j'avais investi 3000 balles, j'ai vu que j'avais pas pour 3000 balles de trucs. Tu sais, de prendre des frais, etc. Déjà là, j'étais un peu blasé. Puis après, comme par hasard, quand j'ai investi, derrière, ça s'était pris moins 5, moins 10%. Mes 3000 balles, ils valaient peut-être 2005. J'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit, oh là là, je suis en train de perdre tout mon argent. J'ai fait quoi? L'erreur de débutant à l'état pur. J'ai tout revendu. J'ai tout revendu, j'ai récupéré mon argent. Je suis passé de 3000 à 2005, quelque chose comme ça. Bah effectivement, là, j'ai encaissé une perte sèche de 500 balles en même pas 2 semaines. Donc ça, c'est l'erreur de débutant à l'état pur. Et c'est ça que vous ne devez pas reproduire. Parce que c'est là, effectivement, quand vous retirez votre argent, que vous passez à la caisse. Donc il faut faire vraiment attention. Passons au mythe numéro 3. Les investissements immobiliers sont passifs. Cette réponse, les amis, je suis sûr que ce mythe, vous l'avez connu. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. C'est impossible que vous ne l'avez pas déjà entendu. Et ça, c'est à cause notamment de la popularité croissante de l'investissement immobilier comme moyen de générer des revenus supplémentaires. Cependant, il est essentiel de comprendre la réalité des investissements immobiliers pour éviter tous les malentendus et puis toutes les déceptions. Ce concept, ce mythe, tu vois, selon lequel les investissements immobiliers sont passifs, il découle de quoi? Je pense qu'il découle du concept de revenu passif qui est associé à l'immobilier. Il y a de nombreuses personnes qui pensent que l'achat d'un bien pour le louer génère un flux constant de revenus sans rien foutre. Et ça les amène à quoi? Ça les amène à considérer que les investissements immobiliers sont passifs. Mais la réalité des investissements immobiliers, c'est quoi? Elle est déjà plus nuancée. Elle nécessite un examen attentif. Il y a quand même des points importants quand tu investis dans l'immobilier à garder à l'esprit pour prouver que ce mythe déjà c'est de la merde. La gestion des biens locatifs. L'immobilier locatif exige une gestion active. Les propriétaires, ceux qui achètent les biens pour les louer, ils s'occupent des réparations, de la recherche de locataires, du contrôle de paiement de loyer. Sur ce point, tu vois, ça paraît bateau, mais je vous jure que quand vous commencez à avoir pas mal de biens locatifs, je vous promets qu'un non-paiement de loyer peut passer à la trappe. Ensuite, on peut citer la gestion des locataires. Et tout ça, en fait, ça peut être un travail quand même significatif, en particulier si tu gères plusieurs investissements. Parce que, ouais, si tu as une ou deux locations, ça va. Franchement, ça va. Tu t'es capable. C'est pas 100% passif, mais ça va. Ensuite, en fonction de l'immobilier que tu vas faire, là on parle d'immobilier longue durée, hein, classique, location classique, loueur nu ou loueur meublé, ça reste classique. Par contre, si tu commences à aller faire de la colocation, si tu commences à aller faire du Airbnb, etc., etc., ça va te demander, là on est clairement sur du business. Donc ça va te demander beaucoup plus d'action. Ensuite, si tu as un ou deux locataires, n'y a pas de problème. Normalement, ça c'est easy. Par contre, si tu commences à en avoir 10, 15, 20, eh ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça te demande beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'après, il faut mettre en place des automatisations, notamment pour les quittances, etc., etc. Il faut avoir une solide équipe sur laquelle tu peux compter. Et tout ça se met en place. Ensuite, un autre point pour vous prouver que ce n'est pas passif, c'est les impôts et la réglementation. Les investissements immobiliers sont soumis à des impôts qui sont spécifiques et à des réglementations, elles aussi spécifiques. Les propriétaires doivent se conformer à des normes de sécurité plus ou moins importantes. Je vous donne un exemple tout simple. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un courrier d'un organisme de contrôle qui me disait que j'avais un de mes logements qui n'était pas aux normes. Je me dis, ma merde, attends, c'est pas possible. J'ai fait la rénovation totale de cette maison il y a à peine un an. Et pourtant, il n'est pas aux normes. Il m'a dit, pas de VMC dans la salle de bain. Les barreaux d'escalier, ils sont trop espacés pour les locataires, c'est dangereux, etc., etc. Bah, tu vois, c'est rien. En somme, c'est rien. Franchement, une VMC, effectivement, j'ai pas pensé à mettre. Il y avait des. Il y a des fenêtres dans la salle de bain, pour moi c'est. Enfin bref, c'est pas le débat. Tu vois, c'est des choses qui viennent se rajouter sur ton quotidien. Donc c'est des choses que tu dois penser à faire. Ils viennent se rajouter en plus. Donc c'est pas passif. Ensuite, on peut parler des coûts d'investir en immobilier. Parce que l'immobilier, c'est top. Encore aujourd'hui, je pense c'est le pilier sur lequel il faut se reposer principalement pour construire de la richesse. Maintenant, investir en immobilier, ça nécessite quand même des coûts initiaux élevés, surtout en cette période. L'apport, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, etc., etc. Donc, en fonction de votre investissement, bah, il peut être nécessaire d'attendre quand même un certain temps pour récupérer son argent qu'on a posé sur la table. Voilà. Que dire d'autre? Maintenant, si par exemple, au contraire, vous vous dites, ouais, tu sais quoi, non, tu sais quoi, moi, j'ai pas le temps pour investir en immobilier, sachez qu'il existe des options d'investissement immobilier passives, comme on a parlé juste avant, les fonds de placement immobilier, les REIT. En gros, c'est quoi les REIT permettent? Ça permet aux investisseurs d'accéder au marché immobilier sans avoir à gérer directement les biens. On retrouve la même chose sur le marché français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, via ce qu'on appelle l'immobilier papier, les SCPI. Maintenant, il faut être clair, comme tout produit d'investissement, elles sont moins rentables que de l'immobilier physique classique, mais à côté de ça, vous n'avez absolument rien à gérer. Donc c'est jackpot. Je vous donne quand même quelques petits conseils si vous souhaitez investir en immobilier. Moi, je vous le conseille à 100%, mais faites vos recherches. Avant d'investir dans du locatif, renseignez-vous sur le marché immobilier local, sur les tendances du secteur, les réglementations à rentrer en vigueur. Par exemple, chez moi, on va avoir le permis de louer qui va être mis en place. Et pourtant, c'est pas une ville, c'est pas Lille, tu vois. Donc voilà, la réglementation évolue. Faites attention à tout ça, ça pourrait vous porter préjudice sur vos futurs projets, etc. si vous ne prenez pas en compte. Ensuite, préparez-vous financièrement. On est dans une période où malheureusement, il faut avoir de l'argent maintenant pour pouvoir emprunter, pour pouvoir couvrir les coûts initiaux de l'investissement et surtout ayez de l'argent pour des dépenses imprévues. Vous ne pouvez pas retourner voir le banquier pour vous dire, ah, je suis désolé, j'ai pas assez, est-ce que vous pouvez me rallonger le budget, etc. Non, ça c'est impossible. Un autre conseil, entourez-vous de professionnels. Si vous n'êtes pas sûr des aspects fiscaux, juridiques ou même financiers, entourez-vous de professionnels de l'immobilier pour vous guider dans vos choix, dans vos décisions. Par exemple, sur Instagram, je reçois des questions sur du montage de société. Avec des choses spécifiques. Les amis, entourez-vous de spécialistes du secteur. Moi, je peux vous éclairer, vous donner deux, trois conseils, mais basta, je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas notaire. Donc, entourez-vous de professionnels. Ok, on enchaîne avec le mythe numéro 4. Pour réussir en tant qu'investisseur, il est nécessaire de battre le marché en réalisant des performances dingues, des performances supérieures à l'ensemble du marché. Cette croyance, elle peut conduire les investisseurs à prendre des risques excessifs pour rien, à chercher des stratégies de trading de l'espace pour tenter de réaliser des gains exceptionnels. La vérité, c'est que il faut juste comprendre que battre le marché, c'est pas la seule voie pour réussir en termes financiers. Ce mythe de devoir battre le marché découle de l'idée que réaliser des investissements supérieurs à ceux du marché, c'est le seul moyen de réussir en tant qu'investisseur. Et cette croyance, elle va être renforcée par des histoires de réussite spectaculaires de personnes totalement chanceuses ou très talentueuses qui ont pu obtenir des rendements extraordinaires. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que battre le marché d'une manière cohérente et sur le long terme, c'est extrêmement difficile. Même pour les investisseurs les plus expérimentés. Je vous donne quelques points importants pour balayer ce mythe. Les marchés financiers, ils sont considérés comme relativement efficaces. Ça veut dire quoi? Ça signifie que les prix des actifs vont refléter généralement toutes les informations disponibles. Et donc, il est difficile de prévoir avec précision les mouvements futurs du marché. Ensuite, les stratégies qui visent à battre le marché sont très, très, très souvent risquées. Parce que ça implique souvent des investissements qui sont uniquement concentrés dans des actions spécifiques ou des secteurs spécifiques. Ce qui peut entraîner quoi? On l'a dit juste au-dessus, que si le marché se retourne, ça implique des pertes hyper importantes, voire peut-être toute ta somme. Ensuite, on a des coûts qui peuvent être plus élevés. Les tentatives pour battre le marché peuvent entraîner des coûts supplémentaires, notamment liés aux transactions, aux frais de gestion. Et ça peut réduire tes rendements nets. Ensuite, parlons de l'investissement passif et l'investissement actif. Il y a un vif débat entre l'investissement actif, qui lui va viser à battre le marché, et l'investissement passif, qui lui vise simplement à suivre l'évolution du marché à travers des indices ou des ETF. Les investisseurs passifs cherchent à obtenir des rendements qui sont comparables à ceux du marché dans son ensemble. Ce qui est le plus souvent réaliste et beaucoup moins risqué que faire un investissement actif. Maintenant, si vous souhaitez réussir en tant qu'investisseur sans nécessairement chercher à battre le marché, je vous donne quelques petits conseils à prendre en compte. Fixez-vous des objectifs réalistes. Définissez des objectifs clairs et réalistes en fonction de votre tolérance au risque, de votre horizon de temps et de vos besoins financiers. Diversification du portefeuille, je reviens pas, investissement sur le long terme, adopter une perspective à long terme en gardant vos investissements pendant plusieurs années, voire des décennies. Tout ça pour profiter de la croissance à long terme du marché. Ensuite, l'investissement passif a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il y a une étude qui est sortie. Alors, je la connaissais il fut un temps. je ne sais plus c'est quoi le nom de cet article, mais il était prouvé que investir dans des ETF est mieux que, je crois, 90% des investisseurs actifs. Donc, les amis, on a la réponse juste devant nous. Adopter une approche d'investissement passive qui est beaucoup plus simple, moins coûteuse et qui va suivre simplement le marché dans son ensemble. On passe au mythe numéro 5, investir est réservé aux experts. Je sais pas quoi dire. En fait, tout le monde peut apprendre à investir, tout le monde peut prendre en main ses finances personnelles avec notamment des bonnes méthodes, des bonnes connaissances et des outils qui sont appropriés. Et je pense que ce mythe, tu vois, il vient de la perception que les gens ont des marchés financiers, ils se disent, ouais, c'est compliqué, c'est difficile, ouais, mais attends, regarde, là ça monte, là ça descend, je comprends rien. Les gens, les personnes initiées par exemple en bourse, les personnes initiées à la bourse, ils aiment tellement en faire trop. Ouais, là, il y a une épaule, tête, épaule, ouais, il y a un retournement qui est prévu. Tu vois, les chartistes, ces mecs-là, ils compliquent tout pour pas grand-chose. Les chartistes te compliquent la vie, mon gars, pour rien. Ils sont là en train de faire des déductions qui, 90% du temps, sont foireuses. Ouais, tête, épaule, ah, papa, ici, là, t'as vu en la bougie en 4 heures, c'est... Non, wow! On n'a pas besoin, arrêtez de vous faire... De vous faire... comment dire? Je sais pas comment dire. Arrêtez de croire tout ça. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les figures chartistes. Et j'en connais pas une seule. Enfin, je connais la épaule, tête, épaule. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Les marchés financiers sont pas si compliqués. C'est pas si difficile à comprendre. J'avais zéro expérience en finance. Comment dire? En finance boursière. Et pourtant, bah, je suis investi dessus. Et je suis en positif. Pourtant, ça m'a pas porté préjudice de pas savoir lire les figures chartistes, etc. Tu vois. Les médias, en fait, tout ça, tout ce monde à côté, ils vont vous mettre en avant des analystes, des analyses financières, des trucs de l'espace, des gens qui ont une compréhension approfondie des marchés. Et ça renforce quoi? Ça renforce l'idée que l'investissement, c'est une affaire qui est réservée aux spécialistes. Mais en vrai, tout le monde peut apprendre à investir. Il suffit juste d'avoir la détermination et l'éducation financière. Apprendre et se renseigner. Prenez le temps de vous éduquer sur les bases de l'investissement. En bourse, t'as pas grand-chose à savoir. T'as pas besoin, comme je vous ai dit, d'apprendre les figures chartistes, d'apprendre... Non, il suffit juste de savoir lire un graphe, de savoir lire un rapport d'entreprise. C'est tout. De toute façon, dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, n'investissez que sur des choses que vous comprenez. Tu comprends pas, t'investis pas. Tant que t'as pas la connaissance, t'investis pas. Prenez le temps de vous éduquer sur les bases de l'investissement. Ok, tu veux investir dans ça? Ok, bah je vais me concentrer sur ça. Ok, la stratégie, ça va être ça, ça, ça. Les risques, ok. Définition des objectifs financiers. Court, moyen, long terme. Comme ça, t'adaptes ta stratégie en fonction de tes besoins. Tu commences. Tout doucement, commence avec prudence. Tu connais pas, t'investis pas tout ton cash. Non, tu vas créer tu vas te créer un, comment dire, un plan d'investissement qui va refléter ta tolérance au risque, tes objectifs et ton horizon d'investissement. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'investissement. Donc ça, c'est clair et net. Bon, les amis, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est tout pour l'épisode du jour. Juste avant de clôturer cet épisode, je vous dirais que l'investissement, ne pas l'oublier, mais c'est un marathon. C'est un marathon passionnant, mais où vous allez avoir besoin de patience, de discipline et une compréhension claire de vos objectifs financiers. N'oubliez pas de vous informer encore et toujours. N'oubliez pas de diversifier vos investissements et surtout de rester fidèle à votre stratégie et à vos objectifs à long terme. Dans tous les cas, les amis, si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde tous dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à me contacter. Instagram, vous avez également le mail du podcast. Vous pouvez vous retrouver ça de toute façon dans les infos juste en dessous, dans les infos de l'épisode. Ensuite, les amis, donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force en notant ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez même noter sur toutes vos plateformes d'écoute préférées dès que vous pouvez. Mettez le petit commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. Ça fait grimper le podcast dans le classement des podcasts liés à l'investissement. Ensuite, vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Une petite story Instagram, franchement, ça serait le fire. Les amis, prenez soin de vous dans tous les cas, prenez soin de vos finances, prenez soin de vos investissements, prenez soin de votre famille, très important. N'oubliez pas 1% chaque jour et moi je vous dis à très bientôt dans le Money Circle Talks. Ciao, ciao, ciao!